Bonjour à tous. Alors, Francine et moi rentrons de vacances, nous reprenons nos repères. Je vois des visages nouveaux dans l'Assemblée. Eh bien, soyez les bienvenus, que vous soyez de passage ou présents pour quelque temps. J'aimerais commencer ce temps de partage de l'Écriture par la lecture d'un passage qui se trouve dans l'Épître aux Corinthiens. Au chapitre 3 et au verset 22, première épître de Paul aux Corinthiens. Alors, je vais vous lire une version un petit peu revue, corrigée, et puis on relira la version, j'ai envie de dire, originale, complète. Alors, la version un peu corrigée, c'est celle-ci. Tout vous appartient. L'univers entier est vôtre. La vie et la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous n'appartenez qu'au Christ, comme le Christ appartient à Dieu. Et puis, la version non expurgée ou non retravaillée dit ceci, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. J'ai choisi ce texte en le modifiant légèrement ou en n'en gardant que quelques parties. C'est un texte, une lettre que Paul a envoyée à l'église de Corinthe. Une église qui avait besoin d'être enseignée pour remettre les choses à leur place. Parce qu'il y avait à la fois du désordre, mais aussi des oppositions, notamment des oppositions parce que certains se sentaient plus attachés à Paul, qui avait fondé cette église quelque temps auparavant. Il était resté pendant son deuxième voyage missionnaire pendant une année et demie à Corinthe. Il y avait fondé l'église, puis d'autres y avaient enseigné. Pierre y était passé, Apollos, un homme qui s'était converti, avait aussi enseigné et nourri cette église. Et puis finalement, au sein de l'église, certains se disaient « Mais moi, je suis de Paul », d'autres disaient « Je suis de Pierre », d'autres disaient « Je suis d'Apollos ». À qui sommes-nous ? Et Paul, dans cette première épître, qui n'est pas la première épître, puisqu'il y a une autre lettre qui a été perdue et qu'on n'a pas retrouvée. Il y a plusieurs lettres qui ont été écrites à l'église de Corinthe, mais Dieu nous a laissé celle-ci, puis celle que nous avons à suivre. Eh bien, dans cette deuxième lettre, qui est la première pour nous, il écrit à cette église de Corinthe pour essayer de les recentrer sur l'essentiel. Et nous avons besoin souvent d'être recentrés sur l'essentiel. La parole de Dieu partagée n'est rien d'autre que la volonté du Seigneur, dimanche après dimanche, de nous recentrer sur l'essentiel, parce qu'il nous est parfois difficile de rester centré sur Christ. Alors, à ceux qui disaient « Je suis de Pierre, de Paul, d'Apollos », eh bien, Paul répond « Tout vous appartient ». Waouh ! Tout vous appartient. Ce n'est pas vous qui appartenez à Pierre, à Paul ou à Apollos. Tout vous appartient. Je suis certain que pendant les 3 semaines où nous avons été absents, Francine et moi, vous avez continué à vivre, à respirer, à manger, à vous nourrir de la parole de Dieu. Hier, j'ai reçu, ou avant-hier, j'ai reçu un message de Laurence qui nous envoyait quelques passages de l'Écriture qu'elle voulait partager avec l'équipe pastorale. Donc, je suis convaincu que le Saint-Esprit a continué à lui parler pendant qu'on était absents. Mais si ! Même quand je ne suis pas là ou Francine n'est pas là, le Seigneur continue à vous parler. J'en suis convaincu. Tout vous appartient. Non ? Tout vous appartient. L'univers entier est vôtre. La vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous n'appartenez qu'au Christ. Ni à Jean-Marc, ni à Michel, ni à Pierre, ni à Paul, ni à Apollos. Vous n'appartenez qu'au Christ, comme le Christ appartient à Dieu. Tout vous appartient. Et juste avant de me lever, quelques minutes avant, je repensais, puisqu'on repense à la prédication qui va venir, quel sentiment peut nous habiter quand on a le sentiment que tout nous appartient. Et je me suis rappelé d'une expérience assez extraordinaire. Il y a quelques années de cela, au mois d'octobre à peu près, toute l'église participait à la collecte alimentaire pour la banque alimentaire. Vous savez, il y a un week-end qui est prévu pour ça. Et le samedi, l'église se mobilisait, il y a de cela de plusieurs années, et on faisait une collecte alimentaire à Quévin. À l'époque, c'était le magasin Intermarché. Et c'était un copain qui tenait ce magasin. Et il nous laissait vraiment beaucoup de latitude pour pouvoir distribuer des tracts, récolter. On est arrivé, je crois, à un moment donné, à récolter 2 tonnes de nourriture en une journée. Jusqu'à 3, peut-être, ouais. 3 tonnes 100 en une journée. Alors, tous les jeunes étaient là, ils participaient, tout. Et je me pensais, tout vous appartient. Quel est le sentiment qui peut m'habiter en ayant le sentiment que tout m'appartient ? Et j'ai repensé à une expérience, c'est en fin de journée, alors que la collecte était quasiment terminée, on avait rentré tout dans les camions, le magasin commençait à pas à s'éteindre, mais pas loin, les caissières étaient pour la plupart déjà, avaient quitté leur poste, et là, Laurent, le propriétaire du magasin, est venu nous voir et dit « Alors, ça s'est bien passé ?» On dit « Oui, oui, vraiment, merci pour cette liberté, merci pour cette possibilité de collecter pour les hommes et les femmes, les familles qui en ont le plus besoin. » Et puis, il y avait Maïlys qui était là, qui avait 11 ans. Et puis, tout à coup, il se tourne vers Maïlys et il lui dit « Mais et toi, est-ce que tu es contente de ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Et Maïlys qui était là, elle était tout feu, tout flamme. Hein. Elle n'est pas éducatrice spécialisée aujourd'hui pour rien. Aider les autres, être à l'écoute des besoins des autres, c'était ça. Et déjà, à 11 ans, elle a dit à Laurent, oh, « Oui, oui, c'était formidable. Oh, c'était génial. Et tu crois qu'il y a eu assez ?» Elle a dit, « Oh, bah, il y a eu beaucoup, oui. Oui. » Il dit, « Mais est-ce que tu crois qu'il y a des choses qui manquent ?» Alors, elle a dit, « Je ne sais pas. Est-ce que tu crois qu'on a collecté assez de choses pour les enfants ?» Ah là, elle dit, oui, il y a eu des petits pots pour les bébés, etc. Mais tu ne crois pas que les gens qui manquent de moyens, ils ont aussi le droit d'avoir des bonbons, des douceurs comme ça ? Est-ce que tu crois qu'il y a eu assez de bonbons pour les enfants dans cette collecte ? Alors là, elle a dit, non, ça, les gens n'y pensent pas. Ils prennent des conserves, du cassoulet, des lentilles, mais des bonbons, c'est presque du superflu. Alors, il a regardé Maïlys, puis il a dit, écoute, va chercher un caddie. Ah bon, pourquoi ? Va chercher un caddie. Puis tu viens avec moi. Puis moi, je les ai suivis un petit peu. Et là, elle est allée dans le rayon des bonbons, des confiseries, des tablettes de chocolat. Et puis, il a dit à Maïlys, écoute, prends ce qui est nécessaire, ce que tu penses être nécessaire pour les enfants qui auront besoin de confiserie, de douceur, d'une attention. Alors, vous savez ce qu'a fait Maïlys ? Elle a pris des paquets comme ça, de bonbons, je dirais pas les marques, mais de sucreries, de chocolat, d'ours, etc., au chocolat, puis elle a fait tomber. Il dit, tu penses que c'est assez ? Puis Maïlys était là, elle n'osait pas trop en mettre dans le chariot. Elle dit, c'est déjà pas mal. Puis il dit, tu sais, ce qui serait mieux pour collecter des confiseries ? Alors elle dit, non. Tu mets ton bras dans le rayon, le caddie en dessous, et tu fais tout tomber dans le caddie. Puis alors j'ai vu la tête de Maïlys comme ça, elle dit, mais c'est possible ? Elle dit, oui, vas-y, vas-y. Et j'ai vu Maïlys mettre son bras comme ça et faire tomber des paquets, des paquets, des paquets de bonbons. Elle a osé parce que le directeur du magasin lui avait dit « Fais-le, tout est à toi. » J'ai vu le bonheur sur le visage de ma fille. Ce n'était pas pour elle. Et puis alors, elle a pris ensuite, quand tout le caddie était plein de confiseries, elle a traversé le magasin. Et vous savez ce qu'elle a vécu comme expérience ? Elle a vécu l'expérience de la grâce dans un magasin. Vous savez ce que c'est que l'expérience de la grâce dans un magasin ? Elle a pris son chariot. Laurent était derrière. Moi, j'étais derrière. Et puis, il a dit, vas-y, passe là où il y a la caissière. Alors, elle est allée. Et elle s'est arrêtée. Et Laurent lui a dit, continue. Elle a regardé la caissière, elle est passée avec son caddie, sans rien payer. Ça ne vous rappelle pas une parole d'Ésaïe ? Vous qui avez faim et soif, venez sans rien payer. C'est la grâce. Tout est à vous. Maëlys l'a vécu. Nous le vivons et il nous est dit par la parole de Dieu, tout est à vous. Ah ! La question, c'est de savoir, c'est est-ce qu'on est prêt à être de ces chrétiens, de ces hommes et de ces femmes qui nous approchons d'un Dieu qui nous dit cette parole et dans lequel nous croyons. Alors j'avais envie de parler de ce que Dieu nous propose comme dimension de vie. Et de savoir si nous pouvons être des chrétiens équilibrés. Équilibrés. Ou des chrétiens harmonieux. Vous faites la différence entre les deux ? Des chrétiens équilibrés. Quelle est la différence entre l'équilibre et l'harmonie ? Alors j'aime, il y a 40 ans de cela, Michel m'a fait découvrir un philosophe qui était aussi métaphysicien, que j'aime profondément, qui est d'une simplicité vraiment à comprendre, qui a été proposé 4 fois pour le prix Nobel de littérature, quand même, qu'on connaît peu aujourd'hui, qui est peu évoqué, qui est un philosophe plutôt catholique, et qui s'appelle Gustave Thibon. Et il disait ceci, au-delà de l'équilibre, il y a l'harmonie. Ah. C'est quoi la différence entre l'équilibre et l'harmonie ? Je vais demander à Rémi de participer à cette prédication. Prends ta guitare. Fais-nous un do avec une seule note. Non, une seule note. Trouve-moi le do. Une seule note, voilà. Ah. Bah, do. Voilà. C'est un do. En musique, c'est un do. C'est joli, non, un do ? Hein ? Ça, c'est équilibré. C'est la note qui est un do. Je fais un cours de musicologie, je me régale devant Laurence, devant Jeannot. Je leur explique la musique. C'est la première fois où c'est dans ce sens-là, je vous dis. Refais-nous un do. Il est beau, ce do, non ? Fais-nous un accord de do. C'est un do. La différence entre l'équilibre et l'harmonie, c'est ça. Le premier do, c'est une note, elle est précise, elle est équilibrée. Le deuxième do, l'accord, c'est un ensemble de notes qui, ensemble, s'enrichissent et vous fournissent un do. C'est vrai pour tous les accords. Alors, j'aime bien cela parce que l'harmonie, ça relève de l'utilisation délibérée de fréquences différentes en même temps, dans la perspective d'apporter du relief, de la richesse. Le deuxième do en harmonie est beaucoup plus joli, non ? Vous ne trouvez pas ? Alors, sauf si on s'appelle Atahualpa Yupanqui à la guitare d'autres guitaristes connus qui peuvent, note après note, comme Django Reinhardt, vous sortir. Mais nous, on n'utilise que des accords. Mais cette fréquence simultanée, c'est quelque chose de joli. C'est ce qu'on appelle l'aspect vertical de la musique. Et je m'arrête là pour le cours de musique. C'est l'aspect vertical, c'est les accords harmoniques. Et l'horizontal, la musique, les accords horizontaux, c'est la mélodie, c'est l'aspect horizontal, la mélodie. Donc voilà, c'était pour vous faire la différence entre l'équilibre et l'harmonie. Est-ce que vous voulez être des chrétiens équilibrés ? C'est une bonne chose d'être équilibré. Maintenant, quand on dit à quelqu'un, tu sais, toi, tu es quelqu'un d'équilibré. Je sais pas, Patricia, si on te dit ça, tu te dis, ouais, bon, ouais, c'est pas forcément un bon compliment, parce que l'opposition, c'est, en fait, t'es pas quelqu'un de déséquilibré. Donc, quand on dit t'es équilibré, on dit, ouais, d'accord, c'est pas forcément flatteur. Je dialoguais avec une jeune femme il y a quelques jours, et on parlait de son parcours avec le Seigneur et puis du regard qu'elle portait sur elle-même. Et je lui posais la question, je lui disais, mais c'est quelqu'un qui était dans l'église il y a quelques années, puis qui est parti pour ses études. Et je disais, mais à ton avis, quel est le qualificatif que les gens de l'église pouvaient te donner quand tu étais dans l'église ? Elle a cherché, elle a dit, ouais, quelqu'un de sympa. Non ? Je dis, le mot qui revenait souvent quand on parle de toi, c'était, tu es gentille. Waouh ! Elle a réagi tout de suite en disant, oh que j'aime pas ce terme ! Gentille ! Ça veut dire quelqu'un qui est un petit peu simplé, etc. Oh non, j'aime pas ce qualificatif, être gentille. Et puis, elle a donné le qualificatif qu'actuellement, on lui apporte en la regardant vivre. C'est pas quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de profond, de riche. Quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Quelqu'un qui a une disponibilité. Quelqu'un qui est dans le service. Voilà les qualificatifs. Mais elle m'a dit, ah non, qu'on ne me dise plus que je suis gentil. Est-ce que tu es équilibré ? J'aimerais mieux être quelqu'un d'harmonieux. Vous voyez, pas ce petit dos tout seul dans son coin, bien net, bien clair, propre sur lui. Il y a des dos qui sont comme ça. Et j'aimerais plutôt être un accord harmonieux avec tout ce qui est en moi de profond, de fragile, de défauts, d'imperfections, et en même temps, de qualité, de richesse, de dons naturels, de dons spirituels. J'aimerais que tout cela fasse quelque chose d'harmonieux. Et il y a un psychologue chrétien que j'aime beaucoup, que je qualifie souvent d'un des rares psychologues chrétiens dont je pourrais donner les ouvrages, qui s'appelle Jacques Poujol, que je donnerais volontiers à des professionnels avec lesquels je travaille. Parce que son enseignement est vraiment solide. Et lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'équilibre psychologique du chrétien ». Et il y traite de la nécessité pour les chrétiens de cultiver l'équilibre dans leur vie et de se méfier des excès. Excès dans leur comportement. Enfin, je parle de moi, parce que vous n'avez jamais d'excès dans vos comportements. L'excès dans les paroles, dans les attitudes, dans le fonctionnement au quotidien. L'équilibre psychologique du chrétien. Alors quand je compare à Gustave Thibon, je dis alors il faut être équilibré ou il faut être harmonieux dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Tout vous appartient, l'univers entier est le vôtre, la vie et la mort, le présent et l'avenir. En fait, entre équilibre et harmonie, il ne faut pas choisir. Je pense que les deux sont nécessaires. J'ai fait l'expérience quand j'étais jeune, à 18 ans, des excès. C'était l'époque où il y avait encore le service militaire et quand je suis passé lors des 3 jours où on devait être étudié pour savoir où est-ce qu'on allait être aiguillé, je suis arrivé et puis devant le conseil de militaires qui recevait les futurs soldats dans les mois qui viennent, il y avait un capitaine qui était là dans le bureau avec ses assesseurs et dit, bon, au vu des résultats de ces 3 jours, nous vous proposons de faire l'école d'officier. Et moi, j'ai regardé, je dis, je suis chrétien, je veux pas. Le capitaine m'a regardé, il dit, vous êtes chrétien, vous ne voulez pas ? Non, je suis chrétien, je veux pas. Bon, il a écrit dans un dossier et m'a dit, au revoir. Quelques mois après, j'ai été affecté dans une garnison à Amiens, un régiment semi-disciplinaire. Je suis arrivé devant un nouveau bureau avec un capitaine et des assesseurs. Et là, le capitaine, j'étais devant. Et puis alors déjà, je regardais, je me dis « waouh, waouh, waouh ». Et là, le capitaine a regardé le dossier et dit « on vous a proposé de faire l'école d'officier ?» Je dis « oui ». Bon, vous avez refusé ? Oui. Bon, vous ferez l'école de sous-officier. Et il m'a regardé, il m'a dit, là, c'est plus un choix. Vous le ferez. Et je me suis retrouvé à faire l'école de sous-officier. Et après, j'ai regretté pas avoir accepté de faire l'école d'officier.
On mangeait aux messes tous les jours. On avait sa chambre individuelle et tout et tout.
Le manque de sagesse et d'équilibre dans ce que nous sommes en tant que chrétiens. Alors, l'apôtre Paul s'adresse à une église, celle de Corinthe, qui manque d'équilibre, qui manque d'harmonie. Et il leur adresse un message qui peut paraître un peu flou. Tout vous appartient. Est-ce que nous recevons cette parole de Dieu, là aussi, ce matin, comme une promesse de Dieu, nous concernant, tout nous appartient. Mais alors, quand on dit cela, ça me gêne parce que c'est la base du message, vous savez, de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Si tu crois en Christ, si tu donnes ta vie à Christ, et surtout si tu n'oublies pas de donner à l'Église, à ce moment-là, tout appartiendra. Non, non, il ne s'agit pas de cela. Tout vous appartient, l'univers entier est vôtre. Alors nous, en français, on a deux points. Il cite ce qui est à nous. La vie et la mort, le présent et l'avenir. La vie et la mort, le présent et l'avenir. C'est ça qui nous appartient. Ce n'est pas les richesses, les mines d'or du Yucatan ou les diamants d'Afrique du Sud. Non, ce qui nous appartient, c'est la vie et la mort, le présent et l'avenir. Et j'aimerais parler de cet équilibre et cette possibilité, là aussi, d'harmonie dans notre gestion ou notre compréhension de ce qu'est le temps dans notre vie. Ah, certains sont allés en vacances. J'ai vu une caravane passer devant moi hier, alors que je revenais de la plage, et dessus, il y avait marqué « fleurette ». C'est cool, je me dis « mais oui, mais c'est... » Alors j'ai regardé, c'était pas Jean-Louis et Agnès qui étaient dans la voiture. Je me suis dit « voilà, on est allés en vacances, et est-ce qu'après ce temps de vacances, on se dit « voilà, pendant ce temps, tout m'a appartenu. J'ai fait ce que j'ai voulu, etc. Maintenant, il faut reprendre le collier lundi et puis tout est terminé. Et puis, est-ce que c'est ça notre conception de ce qui nous appartient ? Notre rapport au temps est souvent très piégeur. Tout vous appartient, la vie, la mort, le présent et l'avenir. Combien de fois n'avons-nous pas fait dépendre la qualité de notre vie à « ah, demain !» Quand telle chose sera arrivée, quand telle situation sera débloquée, quand telle souffrance qui pèse sur ma vie sera enlevée, ce sera merveilleux. Demain. Demain. Ce qui vous appartient, c'est aujourd'hui, c'est le présent qui construit notre avenir. La manière dont nous vivons notre présent fait de nous des hommes et des femmes qui vivent de manière harmonieuse leur temps avec eux-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Le temps qui nous est confié par Dieu. Vous connaissez ce proverbe qui dit « comme on fait son lit, on se couche ». Comme on vit son présent, on prépare aussi son avenir. C'est comme ça qu'on pourrait le dire aussi. Ce matin, il y a quelqu'un qui a été concerné par une parole. Tu as des projets aujourd'hui. Mais ces projets-là, ils dépendront dans la manière dont tu les construiras aujourd'hui avec Dieu. Je ne veux pas être lieutenant. Bon, tu seras sergent. Tu dormiras avec des copains pendant 2 mois et ensuite tu vas diriger un groupe et tu seras sur le terrain alors que tu aurais pu être dans une situation complètement différente. Comme on fait son lit, on se couche. Comme on vit son présent, on construit son avenir. Ce texte de l'apôtre Paul aux membres de l'église de Corinthe, c'est une proclamation, et quelle proclamation ! Tout vous appartient, l'univers entier est vôtre. Allez lutter contre la théologie de la prospérité par rapport à ce texte-là, c'est facile. Dès lors que l'on comprend bien que ce qui est en jeu, c'est la vie et la mort, le présent et l'avenir, ni plus ni moins. Vivre son présent. Est-ce que c'est facile de vivre son présent ? Le passé, il n'en est pas fait mention. Vous avez remarqué, tout vous appartient. Parce que le passé, il ne nous appartient plus. Ce que j'ai été, ce que j'ai vécu, les difficultés que j'ai rencontrées, les souffrances que j'ai supportées, les défaites et les victoires, les combats positifs ou négatifs, ce qui est du passé ne m'appartient plus. J'ai plus de prise sur le passé. Mais Dieu peut et veut me rendre libre par rapport à mon passé. Est-ce que vous avez réalisé cela ? Il y a tellement d'hommes et de femmes et de chrétiens qui continuent à vivre avec le poids du passé. Or, Christ à la croix m'a libéré du passé. Il a transformé le passé. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, vous connaissez ce verset. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses concourent. Est-ce que les choses du passé que j'ai vécues, il y a, je vois notre sœur qui vient du Venezuela, est-ce qu'on peut dire que ce qui est vécu dans ce pays aujourd'hui, qui est quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer, nous, ici, est-ce que malgré tout, ces choses-là peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu ? Quand on est dedans, c'est difficile de dire amen. Quand on est loin du Venezuela et qu'on vit en Bretagne, c'est facile à dire. Et pourtant, c'est une vérité. Est-ce que je peux croire que ce qui m'arrive, ce que je vis, peut concourir à mon bien ? Quand des proches sont malades, quand des situations professionnelles, quand des difficultés au niveau de mes formations, de ma vie au quotidien sont là, est-ce que je peux croire que toutes choses vont concourir à mon bien ? Est-ce que ce qui a été a pu faire de moi aujourd'hui quelqu'un de différent parce que j'ai confiance dans ce chemin que Dieu m'a fait parcourir ? Je travaille avec des femmes dépendantes de l'alcool et d'autres drogues. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir dans mon bureau des femmes qui, à la fin de leur séjour, disaient, c'est très rare, mais qui arrivaient à dire, heureusement que je suis devenu malade alcoolique. Parce que si je n'avais pas été malade alcoolique, je n'aurais jamais fait tout ce travail sur moi. Je n'aurais pas découvert quelles étaient mes fragilités, mes souffrances passées. Je n'aurais pas non plus découvert quelles étaient les richesses qu'il y avait en moi. Heureusement que je suis passé par ce chemin. Combien d'hommes et de femmes sont enfermés dans le passé non guéri, non libéré, y compris dans l'Église. Je ne repasse au passé que pour dire tous ces sentiers ont été miséricorde et fidélité. Psaume 25, verset 10. Tous ces sentiers n'ont été que miséricorde et fidélité. Est-ce que je peux dire cela de mon passé ? Quelles que soient les difficultés qui ont habité mon passé, tu as été miséricorde et fidélité. Il y a peut-être des choses qui doivent être encore travaillées, des choses renversées, des solutions trouvées, mais tu as toujours été miséricorde et fidélité pour moi. Je ne reste pas figé comme la femme de Lot qui regarde en arrière, car la vie me quitterait et je deviendrai comme une statue. Mais je me porte vers ce qui est en avant. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans une autre épître. Je me porte vers ce qui est en avant. Paul aurait pu dire aussi, je me souviens des chrétiens que j'ai mis en prison, des familles que j'ai séparées, peut-être de certains qui sont morts à cause de moi. Mais je me porte en avant, parce que ces choses-là que j'ai vécues, Dieu me les a fait traverser, et il a été miséricorde et fidélité dans ce passé. Alors je deviens gérant, comme le dit ce verset, gérant du présent et de l'avenir, de la vie et de la mort. Paul nous dit que deux choses en particulier nous appartiennent, le présent et l'avenir. Nous pouvons donc, dans une certaine mesure, en faire ce que nous voulons. Ça nous appartient. Mon présent m'appartient. Nous sommes propriétaires de ce présent et de notre avenir. Ça, c'est une responsabilité. Quel sera l'avenir que je veux pour moi ? quelle sera la place que je laisserai à la pensée de Dieu. Tout est à vous, mais vous, vous n'appartenez qu'au Christ comme Christ appartient à Dieu. Ah, rectification. Nous sommes la propriété de Dieu qui nous donne l'avenir et le présent en gérance. Est-ce que nous sommes des bons gestionnaires de notre présent ? Il y en a qui sont tellement dans le passé que le présent est complètement parasité. Mais il y en a qui travaillent tellement sur l'avenir que le présent n'est plus présent non plus. Souvent, quand j'explique que je vais reprendre le travail lundi, c'est-à-dire demain, et que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, je vais commencer à préparer les fêtes de fin d'année, les remplacements, les plannings, etc. Moi, après l'été, dès le début de septembre, fin août, je commence à me projeter sur la fin de l'année. Pour autant, il y a encore septembre, octobre, novembre. Est-ce que ça veut dire que ces jours, ces mois, ces semaines n'existent pas ? Certains peuvent s'investir dans l'avenir au détriment du présent. Aujourd'hui, j'ai entendu dans la parole prophétique tout à l'heure ce mot « aujourd'hui ». Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Aujourd'hui, j'aime cette formule qui vient d'un titre de film, un film avec Jacques Gamblin, un film de Rémy Besançon, que j'aime beaucoup, c'est « Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. » Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Et demain, quand tu y seras, ce sera le premier jour du reste de ta vie. Où sera Dieu ? Nos vies avec leur passé et leur avenir sont toutes au présent pour Dieu. Nos hier et nos demain sont tous des maintenant. Pour Dieu, il n'y a que maintenant. Nous rencontrons Dieu toujours au maintenant et au présent. Jamais dans le passé, jamais dans l'avenir. C'est au présent que Dieu se tient vis-à-vis de chacun d'entre nous. Est-ce que nous pouvons être présents dans notre présent ? Ça va être difficile à traduire, ça. Hein, Carla ? Est-ce que nous pouvons être présents dans notre présent ? Est-ce que nous pouvons être de ceux qui ne savent pas jouir du temps présent et être toujours en projection ou dans le passé ? Voici les questions que le chrétien, spirituellement en éveil, pose au Seigneur, le maître du présent. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'es-tu en train de me dire ? Que désires-tu me donner ou me demander ? Que veux-tu que je fasse ? Ça, ce sont les questions d'un chrétien qui est non seulement équilibré, mais qui est aussi dans une démarche d'harmonie avec lui-même, avec les autres et avec son Dieu. Est-ce que nous pouvons entendre ce que l'Esprit dit ? Le Saint-Esprit nous exhorte de façon présente à trois reprises dans l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Chapitre 3, verset 15. À trois reprises, il y a cette exhortation. Pour autant, est-ce que nous sommes attentifs au fait qu'aujourd'hui, Dieu me parle ? Maintenant, Dieu me parle. Est-ce que j'endurcis mon cœur ou est-ce que je lui réponds maintenant ? Les deux paroles qui ont été données ce matin sont adressées à au moins une, deux personnes. Qui ressortira en ayant entendu aujourd'hui sa voix et ne se sera pas endurci, mais dit « Dieu me parle ». Nos cœurs s'endurcissent quand ils ne battent pas au rythme du Dieu vivant. Moi, j'ai du mal à suivre parfois le rythme de mes collègues de groupe de louanges. C'est embêtant pour eux, ça l'est pour moi aussi. Mais ce qui est plus grave, c'est quand je ne bats pas au niveau de mon cœur au rythme de Dieu pour ma vie. Est-ce que je suis son rythme pour moi, celui qu'il veut pour moi ? Ce matin, il y a quelqu'un, je ne sais pas si je peux le dire, qui est venu me voir en me disant « Je veux prendre mon baptême ». Hein ? Ça, c'est un pas où quelqu'un dit « Je veux vivre au rythme de Dieu. »
Hein ?
« Je veux vivre au rythme de Dieu. » Tu peux lever la main ?
Que ça tout le monde la voit.
Donc nous aurons deux baptêmes cette année. Enfin, si on fait cette année, je suppose. Hein ? Vivre au rythme de Dieu. Ça vaut aussi bien au niveau des chrétiens qu'au niveau de l'Église. Est-ce que l'Église vit au rythme de Dieu ? Est-ce que nos églises vivent sur le passé ? Vous savez, il y a 30 ans, on a eu une parole. Mais mes amis, une parole pour l'Église il y a 30 ans, qui était formidable ! On s'en souvient ! Si vous voulez voir toutes les paroles, Michel, il les a, parce qu'on a les paroles pour l'Église depuis au moins 40, 45 ans. Hein ? 70, tu vois, je ne suis pas loin. Hein ? Est-ce que nous vivons sur les paroles d'hier ou sur les paroles d'aujourd'hui ? Sois attentif, Job. Écoute-moi. Tais-toi. Et je parlerai. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. J'ai toujours quelque chose à dire. Et le Seigneur continue en disant à Job, chapitre 3, verset 31, « Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » Est-ce que nous avons besoin d'entendre la sagesse de Dieu pour nos vies ? Quelle est ta parole, Seigneur, pour le temps que je vis, pour l'endroit où je me trouve, pour l'œuvre que j'accomplis ? Puisqu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se taire et un temps pour parler, je dois comprendre quel temps je suis en train de vivre. Comprends-tu ce que tu lis ? Dit Philippe à l'Éthiopien. Et moi j'ajouterais, comprends-tu ce que tu vis ? Aujourd'hui et maintenant, avec Dieu. Oh, je le comprends sans lui. Je suis dans la colère, je suis dans la rébellion, je suis dans le refus, dans l'inacceptation, je suis dans la joie, je peux être dans l'allégresse. Mais avec Dieu, quelle est la lecture que tu fais, que je fais, de ce que je vis maintenant avec lui ? Et parfois, ça change tout, de voir les choses en fonction de ce que dit l'Esprit. Tant de combats ou tant de repos, tant de réflexions ou tant d'actions, tant de recherches de Dieu ou tant de témoignages. Savoir quels sont les temps que nous vivons maintenant. Il y avait une tribu dans le peuple d'Israël, ce qui était leur lot, c'est qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire le peuple de Dieu. Premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 33. Vous savez quelle est cette tribu ? Vous avez le choix, 12. Issachar. On entend peu parler de cette tribu d'Issachar. Et pourtant, ce qui leur était propre, c'est qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire le peuple de Dieu. Est-ce que nous avons, nous aussi, par l'Esprit Saint, l'intelligence du temps que nous vivons, pour savoir ce que nous vivons ? Ou bien est-ce que nous l'analysons avec notre intelligence à nous, sans le Saint-Esprit ? Et on sait ce que ça donne quand on analyse ce que nous vivons, ou ce que nous voulons vivre. Ce que nous sommes au présent et ce que nous voulons être dans l'avenir, en fonction de notre intelligence, de nos ressentis, de nos sentiments. La tribu d'Issachar savait discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Que le Seigneur réveille chaque matin notre cœur ou l'oreille de notre cœur pour que nous écoutions comme écoutent les disciples. Chaque matin, chaque jour qui se lève, est comme une portion de manne donnée par Dieu. 24 heures, autant de minutes et de secondes qu'il s'agit de faire fructifier, dont il faut se nourrir. Et c'est un poète havrais chrétien que j'aime beaucoup, un prêtre ouvrier qui s'appelait Michel Quast, qui disait « Le temps est un cadeau que Dieu nous fait, mais un cadeau périssable, un cadeau qui ne se conserve pas. » 40 ans dans le désert, je me dis Il y a bien dû y avoir un jour un type dans le désert qui a oublié de ramasser sa manne. Ma femme est parfaite, mais parfois elle oublie d'acheter le pain. Ah ben oui. Mais vous savez ce qui est bon, c'est que le lendemain, le boulanger en fait du frais. Il y a bien un homme d'Israël qui a oublié de ramasser de la manne un jour et qui a grommelé toute la journée en se disant « Ah, j'ai raté la distribution du pain. » Et le lendemain, il s'est levé et il s'est dit « Ah, hier, c'était terrible, j'ai raté la distribution du pain. Je m'en remets toujours pas. C'était terrible. » Et il ne sort pas de sa tente. Parce qu'il rumine le fait que la veille, il a raté la manne. Et le deuxième jour, pareil. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui ont raté peut-être un temps de grâce, un temps de révélation, un engagement, un pas à faire dans la foi, et qui ruminent jour après jour ce qu'ils n'ont pas vécu avec Dieu à cause de leur désobéissance ou à cause de difficultés rencontrées, et qui vont passer des jours, des semaines, des mois, voire des années. En 40 ans de vie avec le Seigneur et d'accompagnement dans l'Église, j'ai rencontré un grand nombre d'hommes et de femmes qui vivent dans le regret d'avoir manqué un jour la distribution de la manne. Or, pendant 40 ans, Dieu a été un Dieu de fidélité et de grâce. C.S. Lewis disait « Les hommes vivent dans le temps, mais Dieu les destine à l'éternité. » C'est là la raison pour laquelle il désire les voir s'appliquer à deux choses en même temps, à l'éternité d'une part, et à ce point du temps qu'il nomme présent, car le présent est l'instant où le temps touche à l'éternité. J'aime cette formule. Le présent est le point où le temps touche à l'éternité. Ce n'est que dans le moment présent que les hommes possèdent une expérience partielle de la réalité comparable à celle que Dieu embrasse constamment dans sa totalité, l'éternité, sans commencement, sans fin. Savoir m'adapter à mon présent, le vivre. Il y a un homme qui a su faire ça, c'est Daniel. Vous savez, Daniel, ce qui le caractérise, c'est son équilibre dû à son extraordinaire faculté d'adaptation. Il était en déportation, il était dans un pays étranger, Israël avait été en quelque sorte rayé pratiquement de la carte, Jérusalem balayé, le temple détruit. Or, il va pouvoir mettre ses dons au service de son peuple et du pays là où il est. Nous pouvons avoir beaucoup de dons naturels et spirituels, mais ils ne serviront à rien si nous ne savons pas les utiliser en nous adaptant aux circonstances présentes, là où nous sommes. J'aimerais être au Canada, dans l'église, c'est plus une nouvelle vie, là, hein, nouvelle vie, c'est tellement formidable, etc. Mais je suis à Kevin. Elle n'est pas là, je vais en parler. Il y a une sœur qui vient de Singapour. Elle est arrivée ici il y a au bien 12, 15 ans, au moins, 20 ans. Et quand elle a poussé la porte de l'église de Kevin, et qu'elle nous a vus, on était une douzaine. Elle venait d'une église où la salle de prière, je ne sais pas, c'était 200, 300 places. 800 places pour la salle de prière. Je ne vous dis pas le culte. Hein ? Alors c'est vrai qu'elle était là. Et puis elle a fait tout son chemin jusqu'au jour où elle a remercié Dieu d'être à Kevin. Et vous parlez avec elle. Elle est tellement heureuse que Dieu l'ait amenée dans cet espace-là. Il y en a tellement qui voudraient être dans leur présent ailleurs. Est-ce que nous pouvons, comme Daniel, nous adapter là où Dieu nous place, ou là où Dieu nous placera, nous enverra, pour être des témoins et vivre notre présent avec Dieu. Servir Dieu en son temps, en son temps. Notre temps, là, maintenant, Église apostolique de Kevin. Oh, nous, les apostoliques, on a vécu un réveil en 1906, je ne vous dis pas. Ah si, ah si. Le mouvement de Pentecôte
je crois, s'est passé en même temps ou un petit peu après. Nous, on aime bien dire apostolique qui s'est passé après. Donc, on était les premiers au pays de Galles. Et puis, à San Francisco, il y a eu... en fait, je pense que ce soit juste, mais enfin, on aime bien le dire, on aime bien le passer. En 1906-1905, oh, les apostoliques, ils ont vécu quelque chose au pays de Galles. Oh, qu'est-ce qu'on était bien, qu'est-ce qu'on était bon. Une vague de réveil dans toute l'Europe s'en est suivie. Est-ce que nous vivons de ce que nous avons été ou est-ce que nous vivons de ce que nous sommes aujourd'hui? Servir Dieu en son temps. Daniel a su servir comme David en son temps au dessein de Dieu. Il a eu une vie épanouie, harmonieuse, dans un contexte pas facile, mais il révélait, il manifestait non seulement un équilibre humain, mais une harmonie entre ce qu'il était et ce que Dieu était pour lui et faisait pour lui et au travers de lui. Lorsque les chrétiens reçoivent des talents, des dons, il nous appartient d'épouser le terrain où Dieu nous place. Par contre, lorsque les chrétiens vivent dans leurs pantoufles, Dieu les pousse dehors. Et en s'adaptant à un nouveau milieu, ils progressent. Oh, Jérusalem, mes amis, Jérusalem, au temps de la première église, des apôtres qui avaient connu Jésus, qui étaient tous là au même endroit, l'apôtre Pierre, vous imaginez, le frère du Seigneur et tout. Qu'est-ce que c'était bien. Nous, on reste à Jérusalem. Hein, on va pas en bouger. Et puis, Dieu fait intervenir des circonstances défavorables, plus même une persécution. Et tous sont dispersés en Judée, en Samarie. Et au lieu de pleurer sur les bénédictions passées, ils ont annoncé l'évangile au monde entier. Est-ce que je me lamente sur mon passé, sur ce qui a été, sur mon église d'hier, ou est-ce que j'investis maintenant mon présent pour être le témoin de Christ? Les psychologues disent que l'intelligence est la faculté de s'adapter facilement aux situations nouvelles. Ça, c'est de l'intelligence. S'adapter facilement aux situations nouvelles. Et la parole de Dieu dit cette promesse que le Seigneur nous donnera de l'intelligence en toutes choses. Est-ce que là où je suis maintenant, je peux demander au Saint-Esprit de me donner de l'intelligence pour m'adapter à ce que je vis? Ou bien est-ce que je me lamente encore sur mon passé? Et est-ce que je fais de mon avenir quelque chose qui est terne et immuable? Être content. Ça fait partie d'une vie harmonieuse du chrétien. Être content de l'état où je me trouve. Moi, ça va, je suis beau, grand et intelligent. Donc, je me satisfais de cet état-là, sans difficulté. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans notre vie chrétienne, parfois, des moments où on se dit « Je suis tellement insatisfait de ce que je suis. » On a entendu une parole ce matin là-dessus. Quel est le regard que tu poses sur toi? Je suis tellement insatisfait. Que de conflits, de passions, de frustrations lorsque nous refusons d'accepter notre situation. Et quand je dis notre situation, c'est aussi notre situation personnelle, familiale, avec nos enfants, avec ceci, avec cela. On est tellement à ce moment-là dans la frustration, dans l'insatisfaction permanente. Alors que la vie est un changement, une évolution perpétuelle. Paul connaissait le secret du bonheur, être content de l'état où l'on se trouve. Il le disait dans ses épîtres. Je suis content. Si je suis dans le dénuement, je suis content. Si j'ai plus qu'il me faut, je suis content aussi. Je suis satisfait parce que j'ai confiance en Dieu. Quelle est la confiance que je fais? Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Est-ce que nous pouvons le dire? Ah, quand on est dans l'abondance, c'est plus facile à dire. Mais est-ce qu'on peut dire, Seigneur, j'ai tellement confiance en toi que quelle que soit la situation dans laquelle je suis, je te fais confiance et je suis bien avec toi. Bien vivre chaque étape de sa vie, enfance, adolescence, adulte, vieillesse et même la fin. Est-ce que je suis prêt à vivre aussi
tout ce que sont les étapes de ma vie en disant « Je suis heureux d'en être là où je suis aujourd'hui. » Est-ce que je peux me satisfaire de ce que je vis aujourd'hui sans regretter les choses du passé? Oh, les petits oignons qu'on avait là-bas.
Vous ne savez pas de quoi je parle? C'est les Juifs dans le désert.
Les petits oignons d'Égypte, on en avait à profusion. Ça donnait du goût à nos aliments. C'était tellement bon. Ah ! Et puis, on en est loin. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, des concombres, des melons, des oignons. Avoir envie des choses du passé. Ah, j'aimerais tellement être jeune comme je l'étais à 20 ans. Mais intelligent comme je suis aujourd'hui. Et avant que je perde la mémoire, j'aimerais conserver le tout. Est-ce que je peux être dans mon présent, confiant en Dieu en disant oui, je suis satisfait de ce que je vis aujourd'hui et maintenant avec le Seigneur. Ce texte dit « Tout vous appartient, l'univers entier est vôtre, la vie et la mort, le présent et l'avenir. » La vie et la mort, le présent et l'avenir. Or, notre manière d'appréhender notre présent apportera de la vie si nous le vivons entièrement et pleinement avec Christ, ou n'apportera que la mort. C'est ça ce qui nous appartient. Tout vous appartient, la vie et la mort. Pas l'argent, l'or, les diamants, non. Tout vous appartient, la vie ou la mort, le présent et l'avenir. Est-ce que je veux que mon présent construise et enrichisse mon avenir qui est devant moi? Alors, nous avons aussi à changer notre manière d'être, de penser notre temps présent, ce que je veux vivre maintenant avec Dieu. Et je terminerai avec cette image de Martin Luther King qui disait ceci, on a deux alternatives. Ou on est un chrétien thermomètre, ou on est un chrétien thermostat. C'était une image de Martin Luther King que j'aime beaucoup. C'est une idée qui dit, en fait, est-ce que je m'adapte au monde en adoptant ou pas ces thèses? Est-ce que c'est moi qui détermine la chaleur et les valeurs qui sont les miennes avec Christ et qui vont concerner le monde, auquel cas je suis un chrétien thermostat, c'est moi qui détermine ce que va être l'ambiance autour de moi, la chaleur. Ou alors je suis un chrétien thermomètre, c'est-à-dire que j'enregistre la température du monde qui est autour de moi. 18 degrés dans l'eau, 20 degrés sur la plage. Je suis un chrétien thermomètre. Je monte et je descends en fonction du monde qui m'entoure, des éléments, du vent, des circonstances. Ou bien parce que Christ est en moi et que je fais le choix d'être en équilibre et dans l'harmonie, c'est moi qui vais déterminer ce que je vais envoyer comme chaleur, comme amour, comme pensée de Christ autour de moi. Que voulez-vous être ce matin? Des chrétiens thermomètres ou des chrétiens thermostats? Est-ce que vous voulez vivre une vie en équilibre avec Dieu? Est-ce que je veux vivre cela pour moi? Et au-delà de l'équilibre, comme dirait Thibon, est-ce que je veux être dans l'harmonie?